Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello. Il est 9h41, vous êtes sur France Inter. Bienvenue dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non,
vous
coupez.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il a écrit des chansons par centaines, des scénarios par milliers. Oui, par milliers, premier baiser, le miel et les abeilles, c'est lui. Les mystères de l'amour, 500e épisode ce mois-ci, c'est encore lui. Mais comme Camping Paradis qu'il produit aujourd'hui, oui, oui, aujourd'hui, c'est encore lui. Mon invité est le géant de la sitcom à la française. Il a profondément changé le visage de la télévision, marqué à vie toute une génération. Celle qui a grandi avec le Club Dorothée et Hélène et les garçons. Une certaine presse pointait le vide et la connerie, mais du paf, c'est l'une des plus grosses success stories, l'un des plus gros hold-up aussi. Mais bon, je vous parle d'un temps où l'argent coulait à flot sur le marché du disque et dans la télévision. Je vous raconte l'histoire d'AB Productions, B comme Berda, Claude Berda, le businessman, A comme Azoulay, Jean-Luc Azoulay.
L'Instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Jean-Luc Azoulay.
Bonjour Sonia.
Il faudrait 10 émissions comme la mienne pour raconter votre carrière. Bonne nouvelle, vous allez le faire en public au Festival de Cannes. Et c'est ouvert à tous, l'entrée est gratuite. Le Festival de Cannes série qui ouvre ses portes demain jusqu'au 10 avril. Vous, ce sera dimanche. Une pluie de stars internationales et puis aussi un hommage au grand faiseur de sitcom que vous êtes. Jean-Luc Azoulay, vous avez eu au tout début de votre vie professionnelle une folle passion pour Sylvie Vartan. Tiens, si on écoutait un peu de Sylvie Vartan. Elle est là ? Oui, elle est toujours là.
Ah oui, Calendar Girl, je t'aime tout au long du calendrier.
Vous avez appris votre métier avec elle, Jean-Luc Azoulay, avec Guy Lux et les Carpentiers, les maîtres du divertissement de masse à l'époque, où la télévision devient justement un média de masse. Mais faire ses classes avec les yéyés, n'est-ce pas être à l'école tout simplement de la jeunesse ? N'est-ce pas vouer sa vie à ce mot d'ordre que va être et qu'est la jeunesse.
Absolument, mais c'est être à l'école d'une nouvelle civilisation, si vous voulez. Ouais. Parce qu'il y a eu une mutation de civilisation dans les années 60.
Ouais.
On est passé de la France des années 50, qui était un peu compassée, une France plus paysanne, à une France plus industrielle,
ouais,
plus jeune, et avec une existence des jeunes qui avaient leur radio, leur musique, leur signe de reconnaissance. Et c'était vraiment un changement de civilisation.
Mais c'est une certaine vision de la jeunesse. C'est une jeunesse pétillante, optimiste. C'est une vision qu'on retrouvera dans vos sitcoms plus tard et dans vos chansons, qu'on a pu juger trop lisse, trop populaire, bien blanche et propre sur elle. C'est une certaine vision de la jeunesse, les yéyés.
C'est une jeunesse rêvée. C'est une jeunesse idéale.
Ouais,
c'est-à-dire que moi, souvent, on me disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas travailler? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Ils n'ont pas de problème. Parce que je fais pas du reportage. Sinon, je ferais une série de reportages. On verrait des gens dans des HLM en train de souffrir, de prendre le métro. Donc, je montrais les bons moments et je répondais souvent aussi avec une certaine malignité. On ne les voit pas faire pipi non plus, vous savez.
Vous-même, vous avez commencé très jeune avec Berda. Vous aviez 24 ans quand vous avez créé votre maison de disques à la fin des années 70. Vous allez, et ça, peu de gens le savent, rester parolier toute votre vie. Jean-François Pory, c'est vous, c'est votre pseudonyme, c'est les chansons de Dorothée, par exemple. Là, on est en 82, mais ce sera aussi tous les génériques francisés de tous les dessins animés japonais. Ce sera tous les génériques des sitcoms qu'on va citer. Hélène, je m'appelle Hélène, l'hymne de la génération. AB, toutes les chansons des musclés, l'orchestre de Dorothée avec Bernard Minet. Mmh. En fait, comment dire, ce succès-là aussi, c'est une histoire d'avant la crise du disque.
Oui, mais il y a une crise du disque et il n'y en a pas en même temps. Parce que là, par exemple...
La crise du disque, elle va quand même frapper le marché en
2000. Elle
frappe
le marché, mais quand
on... Et vous passez avant.
Oui, mais quand on travaille bien, là on a une jeune artiste qui s'appelle Elsa Esnou qui vient de triompher au Zénith et qui vend du disque. Elle a fait 3 albums, c'est 3 albums d'or.
Ouais.
Alors c'est pas les mêmes quantités, mais c'est quand même pas négligeable du tout.
Non.
Donc il faut toujours penser que la crise du disque vient de deux phénomènes. Le phénomène de la crise informatique, c'est-à-dire que on télécharge, on regarde sur YouTube, tout ça. Mais aussi le phénomène que peu de disques s'adressent vraiment au public. Moi, avec Elsa, j'ai refait ce que j'ai fait avec Hélène, c'est-à-dire que c'est une vedette de la série Les Mystères de l'Amour, et elle chante aussi. Et grâce à ça, on touche le public avec des chansons toutes simples, que tout le monde trouve regarde et qui ne passent pas en radio, parce qu'elles ne sont pas assez bien.
Et on vend du disque. Parce qu'il n'y a plus Salut les copains. Parce que, au fond, oui, vous êtes resté dans cette veine-là.
C'est pas
et
assez
dans
bien.
Cette écriture-là.
C'est pas Christine and the Queen, c'est pas,
C'est pas France Inter, c'est pas la playlist de France Inter.
Ni d'Europe, ni de RTL, ni de Énergie.
Ni d'Europe aujourd'hui. Mais ça l'a été.
Ça l'a été. Ouais. Mais si vous voulez, c'est une playlist populaire.
Ouais. Alors, il sait aussi l'histoire, on l'a dit, hein, vous allez devenir le pape, le nabab des programmes jeunesse. Pour les enfants des yéyés, c'est ça qui est drôle, c'est que vous faites le pont entre les deux générations. L'histoire avec TF1, c'est une histoire incroyable, parce que c'est une histoire que ma génération a du mal à imaginer. TF1 est privatisé au milieu des années 80. Et il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, les animateurs partent les uns après les autres. Ils sont terrifiés par cette privatisation. Ils veulent rester dans le service public. Donc, il y a des centaines de trous à boucher sur ces grilles et sur cette antenne. C'est comme ça que va naître le téléshopping de Pierre Belmar, par exemple. Mais c'est comme ça aussi que Francis Bouygues va vous confier la totalité des programmes jeunesse, la totalité des programmes
jeunesse. Oui, mais attendez, non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que TF1 voulait un renouvellement de sa jeunesse.
Oui.
Dorothée était la plus grande vedette de la jeunesse avec Récréa 2.
Elle était donc, sur Antenne 2 Antenne depuis 9 ans
Antenne
déjà.
2. Ouais. Ils ont contacté Dorothée pour venir donc diriger la jeunesse. Et Jacqueline Joubert, au départ, devait venir avec nous.
Oui.
Puis au dernier moment, elle n'est pas venue. Donc Dorothée s'est retrouvée toute seule. Et nous, qui étions les producteurs des spectacles et des disques de Dorothée, ils nous ont dit, est-ce que vous êtes capable de produire des émissions de télévision? Et comme on est complètement stupide, on a dit oui. Et on est parti comme ça. Et petit à petit, c'est pas la totalité. Petit à petit, on avait 2 heures le mercredi. Et puis, comme ça marchait, on nous donnait 2 heures de plus le matin. Et puis, comme ça marchait, on nous donnait tous les jours. Et puis, comme ça marchait, on nous donnait le samedi, le dimanche. Vous savez, on était un petit peu les boucheurs de trous d'antenne de TF1. Quand quelque chose ne marchait pas, vous n'avez pas une idée et on y allait.
Vous avez fini par livrer jusqu'à 2000 heures de programme par an pour TF1.
Ben oui.
2000 heures de programme par an.
Ben, vous savez.
Mais c'est le plus grand hold-up, et je dis ça de manière assez joyeuse, hein, de l'histoire de la télévision. Franchement, le scandale Jean-Luc Delarue et les animateurs producteurs avec les bouffeurs de patates. Enfin, c'est des rigolos à côté de vous.
Oui, sauf que nous, si vous voulez, on avait des heures, mais des heures à bas coût, parce que la jeunesse n'est pas payée le même prix que les animateurs de prime time. Donc, si vous voulez, on fournissait des heures, mais des heures qui devaient coûter pas cher en plus, parce que sinon, ça ne passait pas. Et qui devaient toujours avoir du succès. Moi, tous les matins, j'avais Étienne Moujotte qui m'appelait à 7h30, parce qu'à l'époque, les audiences tombaient à
7h30. Étienne Moujotte qui était directeur des programmes,
qui était le patron de TF1 avec Christian Dutoit.
Ouais.
Et il m'appelait en me disant, dis-moi, hier à 18h22, ça a baissé, pourquoi? Et on n'avait pas encore les audimats détaillés, donc j'avais des relevés des émissions, et je disais, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Et on parlait. C'était vraiment une bataille très très amusante de l'audience.
Le club Dorothée s'est monté jusqu'à 68% de part de marché.
Ah ben oui.
Mais voilà, c'est-à-dire que quand je vous dis, c'est aussi une histoire d'avant la crise du disque, c'est aussi une histoire d'avant la TNT, d'avant la concurrence du web. C'est l'histoire d'un monde qui a quand même disparu. Les audiences étaient là, les annonceurs étaient là. Il y avait beaucoup d'argent dans le système.
Oui, mais les audiences, tout dépend du programme. Nous, on a produit par exemple La Vengeance de Leclerc avec Laetitia Milo.
Oui.
On a fait 7 millions. Parce que c'était un programme qui était attractif. On a produit aussi les Harlan Coben, c'est aussi le groupe JLA pour TF1. Mmh. On a fait 7 millions aussi.
Ouais.
Camping Paradis fait régulièrement 5 millions. Donc les audiences sont toujours là quand les programmes sont en adéquation avec le public. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont dans des niches qui ne correspondent pas au goût du public.
Mmh.
Et c'est pour ça que les audiences baissent.
Alors le public, vous lui avez fait découvrir des choses, vous parliez de programmes à bas coût dans le club Dorothée. Alors il y avait évidemment Ariane, Jackie, Corbier qui vient de mourir.
Hélas, le pauvre.
Voilà. Et puis il y avait aussi tous les animés, c'est-à-dire les adaptations en dessin animé des mangas. Ça a donné Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant.
Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Alors d'abord, tous les génériques, hein, de tout ce qu'on a vu sur TF1 dans
presque,
c'est quasiment vous à chaque fois.
Oui, presque, parce qu'il fallait faire vite un générique à toute allure pour livrer l'émission.
Ouais.
Donc on faisait avec Gérard Salès la musique et le texte. et on mettait ça à l'antenne très vite.
Alors, vous n'êtes pas le pionnier de l'achat de programmes animés japonais.
Absolument.
En
de Goldorak
France.
Et Candy sont arrivés avant moi.
Voilà, il y a eu Goldorak, il y a eu Candy, il y a eu Albator, qui a été la découverte de ma vie, vraiment.
Ouais, parce qu'il était beau, hein, il était sexy, Albator.
Albator, ouais.
Pour les petites filles, il plaisait énormément aux petites
énormément.
Filles.
En même temps, il est androgyne, il est mystérieux. Ouais, c'est ça, enfin, c'est resté un grand fantasme pour moi, Albator. Donc, moi, je suis un petit peu plus âgée que la génération Dragon Ball et Ken le survivant. Vous les avez diffusés au kilomètre. En effet, ça coûtait très peu cher à l'époque.
C'est pas ça, c'est qu'il n'y avait que ça. Si vous voulez, c'est quand on est arrivé à TF1, ouais, il fallait faire des grilles de programmes. Berlusconi, pour la 5, avait acheté au niveau européen tous les dessins animés qui existaient pratiquement sur le marché.
Ah bon ?
On n'avait plus rien.
Ouais.
Donc moi, heureusement, et Dorothée, on connaissait le Japon, parce qu'il y avait eu Goldorak, Candy. Et moi, avec Sylvie, j'étais allé tous les ans au Japon en tournée pendant des années.
Donc, avec Sylvie Vartan, d'accord.
Oui. Ouais. Donc, j'avais vu que là-bas, il y avait des animations extraordinaires que personne ne connaissait.
Ouais.
Et donc, on a pris ces animations qui étaient les seules qu'on avait. Et ça a marché formidablement.
Ça a marché
et
formidablement.
Et ensuite, on a produit des animations aussi chez AB. Vous savez,
ouais,
on a
mais
produit
pas mal de dessins animés. Il y a quand même cette histoire absolument incroyable où le monopole nippon finit par se voir quand même de manière flagrante à l'antenne. Et ça vous vaut les foudres de Télérama, ça vous vaut les foudres de Ségolène Royal, qui est députée des Deux-Sèvres à l'époque, qui vous attaque. Mais ça vous vaut aussi des rappels à l'ordre du CSA, Dorothée qui va s'excuser aux 20h. C'est-à-dire qu'on se souvient tous, et aujourd'hui ça a été disséqué hein, par les spécialistes, des épisodes de Nicky Larson qui étaient quand même en fait des mangas super violent et pas du tout destiné à être diffusé le matin à des tout-petits que vos doubleurs censuraient, remaniaient. Enfin, c'était surréaliste.
C'était surréaliste, mais non, mais c'était... Vous savez, on s'est affolé beaucoup parce que beaucoup de gens parlaient de ça sans savoir ce que c'était. Bon,
ouais.
D'une part, le Japon est un pays civilisé, où il y a aussi des enfants, il y a aussi des gens qui surveillent les dessins animés.
Ouais.
Par exemple, au Japon, dans la plupart des cas, quand il y a un méchant qui meurt,
ouais,
le sang est vert et pas rouge pour ne pas impressionner les enfants.
Mm-hmm.
Enfin, il y a beaucoup de codes comme ça. C'était pas si violent que ça, à part Ken, qui était un peu
Ken
violent.
Ouais.
Mais pas tant que ça. C'était quand même du cartoon. C'était pas du dessin. C'était pas du réalisme, quoi.
Ouais.
Et on nous a beaucoup attaqué là-dessus sans savoir ce que c'était. Les journalistes reprenaient ce que disaient d'autres journalistes. Par exemple, j'ai lu que c'était au Japon où il y avait le plus grand nombre de suicides d'étudiants. Ce qui est faux. C'est pas pareil que dans tous les pays du monde. Et on reprenait cette nouvelle. Et tout était repris comme ça en boucle par des gens qui ne connaissaient pas.
Mais c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, les éditions Glénat ont commencé à publier Dragon Ball en 93. Aujourd'hui, il y a 20 millions d'exemplaires de Dragon Ball
absolument
qui ont été vendus. Et
absolument
moi, j'ai deux petits garçons qui sont nourris à One Piece et à Naruto. Mais finalement, les journalistes, les parents et les politiques étaient confrontés à l'arrivée massive de cette nouvelle culture nippone dont ils n'avaient pas les codes.
Je pense qu'il y a eu d'une part ça. Et surtout, il y a eu le fait qu'il y a un jour un journaliste qui a écrit quelque chose. Et que la plupart des journalistes reprenant les archives pour écrire la suite, ils reprennent ce qu'il a dit. Donc on dit que c'est pas bien,
Alors, le dessin animé japonais, vous allez le chercher évidemment au Japon. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment vous allez chercher la culture de la sitcom, comment vous l'amenez en France. On va écouter quelques génériques de ce que vous avez produit. Par ordre d'apparition, premier baiser, Hélène et les garçons, le miel et les abeilles, salut les musclés, les filles d'à côté.
Premier baiser.
Alors, Jean-Luc Cazulet, à part Maggie à l'époque, parce que Maggie, c'est Simone Harary, une grande dame de la production française, c'est le groupe Téléimage.
C'est une adaptation de Maude, qui est une série américaine au départ.
Voilà, en réalité, la France ne sait pas ce que c'est que la sitcom. Comment vous définissez la sitcom, vous d'abord ?
Comédie de situation, c'est-à-dire
voilà,
que c'est une comédie dans un décor donné, dans un temps donné, avec des personnages donnés, et qui tourne sur elle-même, donc c'est une comédie de situation.
Vous n'avez jamais tourné en public comme ça a été beaucoup fait aux États-Unis ?
Non, parce que nous on avait un impératif, toujours pour le même coup, il fallait qu'on fasse un épisode par jour, alors qu'aux États-Unis ils font un épisode par semaine.
C'était quoi, 26 minutes par jour ?
26 minutes par jour,
voilà.
Donc il fallait vraiment les faire.
Donc en réalité, ce que vous importez aussi, c'est pas seulement des codes narratifs, c'est aussi une industrialisation du tournage de la série.
Moi j'ai un esprit simplificateur, c'est-à-dire que dans ma tête, quand j'ai un problème, j'essaie de le résoudre de la manière la plus simple possible. Donc là, il fallait que je fasse des programmes dans un temps donné, avec un argent donné.
Ouais.
Donc je me dis, bon, j'ai 26 minutes à faire, une journée ça fait 9 heures à l'époque, donc 26 minutes en 9 heures, ça doit être faisable. On a commencé à le faire. Au début, on a mis 12, 14, 15 heures. Et puis après, on est arrivé à le faire en 9 heures. Parce que tout est faisable. C'est-à-dire que il faut que les comédiens soient habitués, que les réalisateurs soient habitués, que les plateaux soient préparés, et tout est faisable.
Voilà. Je rappelle que quand même, une partie des comédiens tourne toujours avec vous.
Et oui, depuis 27 ans.
Ouais, les mystères de l'amour qui sont diffusés le week-end sur TMC. Mais ils sont toujours là.
Ma culture de la sitcom vient du fait que je suis allé avec Sylvie beaucoup dans le monde entier. Et il y avait partout des sitcoms, sauf en France.
Mais c'est vraiment la matrice, quoi. C'est vraiment la matrice.
Sylvie
Vartan, les yéyés, les années 60, les tournées que vous avez faites avec elle. C'est vraiment la matrice de tout ce que vous avez fait ensuite.
Sylvie et Johnny, en plus. Donc j'étais avec deux stars, parce qu'ils étaient quand même mariés. Ils habitaient le même appartement. Notre bureau était dans leur cuisine. Et c'était quelque chose d'assez fascinant, parce qu'on était, tous une troupe de jeunes, mais moi je devais avoir 20 ans, et Sylvie en avait 23, et Johnny en avait 24. Mm. C'était insensé, on parcourait le monde comme ça, les musiciens étaient jeunes, tout le monde était jeune.
Alors, AB Productions, ça va devenir un empire. Vous vous introduisez en bourse à New York en 95, vous levez 135 millions de dollars avec votre associé Claude Berda. Pourquoi en bourse à New York? Pourquoi aux États-Unis à l'époque?
Ça, il faut le demander à Claude, parce que honnêtement, je me suis jamais occupé des finances, mais jamais.
C'est-à-dire
que j'ai une abstraction totale des finances. Claude me criait dessus en me disant « Ouais, tu dépenses trop !» Je dépensais quand même. Non, je suis... J'ai une chance formidable, je vais vous expliquer. Ouais. Je n'ai jamais connu l'argent. C'est-à-dire que mon père était prof, ma mère était d'abord institutrice, ensuite femme au foyer pour m'élever.
Voilà. Vous êtes né en Algérie.
Je suis né en Algérie.
Vous êtes rentré en 62.
En France en 62. J'ai fait mes études d'abord au lycée Carnot, ensuite médecine, tout ça, puisqu'il fallait bien faire quelque chose. Mes parents étaient un prof, quoi, une vie de prof. Ouais. J'étais un jeune étudiant, je n'avais pas de gros besoins. J'ai commencé à travailler avec Sylvie, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai été dans les plus beaux hôtels. J'ai eu une vie de luxe, par procuration. Ensuite, j'ai monté AB. Ça a marché, j'ai continué à avoir une vie de luxe, sans jamais savoir pourquoi. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et d'où vient l'écriture? Parce que, je l'ai dit, vous avez écrit des chansons par centaines. Les scénarios...
3000 chansons.
3000 chansons? Vous avez écrit 3000 chansons?
Oui, mademoiselle.
Et les scénarios?
Un peu plus.
Un peu plus?
Oui. Avec les mystères, maintenant, ça doit faire 4000.
Alors, cette écriture-là, il faut quand même la raconter, Jean-Luc Cazolet. Vous avez écrit quoi? La moitié de tout ce qui a été fabriqué, produit et diffusé, et qui est sorti des cartons de AB?
Dans tout ce qui a été diffusé, j'ai réécrit la totalité. Parce que même quand j'avais des co-auteurs, je faisais le final writing. C'est-à-dire qu'une série doit être toujours finie par un auteur commun, sinon il n'y a plus de continuité. Ouais. Donc j'ai écrit tout seul à peu près la moitié, et avec des co-auteurs l'autre moitié.
Voilà, et les mystères de l'amour, c'est toujours vous?
Les mystères de l'amour, c'est que moi,
toujours
parce que,
à l'écriture.
Parce que c'est trop compliqué pour quelqu'un d'autre.
Pourquoi c'est trop compliqué?
Parce que ça fait 27 ans que ça dure, il faut se souvenir de tout, donc c'est très compliqué.
Alors, les journalistes qui ont couvert la 500e sur TMC en sont tombés des nues, parce que les journalistes ne vous regardent pas, c'est toujours la même histoire. Ils savent que les mystères de l'amour sont toujours là, que le cri-cri d'amour, que José, que Hélène, que Nicolas, que Lali, que Béné sont toujours là, les héros de notre enfance, mais ils ne vous regardent pas. Et là, du coup, ils vous ont regardé pour la 500e, et ils ont découvert quoi? Des histoires de sadomasochisme, de fétichisme du pied, un de vos personnages qui vit en trouple, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça,
en trouple,
plusieurs maîtresses,
bicouple, oui.
En bicouple, enfin bon, bref, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ils en sont tombés des nues.
Alors je vais vous dire, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait exactement la même chose dans Hélène et les garçons dans les années 80.
Hein,
exactement.
Et j'étais trop jeune pour m'en rendre compte.
Voilà, c'était traité avec humour, si vous voulez. Quand on fait du fétichisme du pied, c'est rigolo. Quand on fait du sadomasochisme, c'est la fille qui accroche son mec avec des menottes et qui perd les clés. Mais c'était exactement ça. Vous pouvez regarder. Vous avez un site qui s'appelle la sitcomologie, où c'est des fans qui font ça et qui racontent tout ce qui s'est passé. Et c'était pareil.
Pourquoi il y a des pieds depuis 27 ans dans vos...
Oui.
Mais
oui,
pourquoi
mademoiselle.
Des pieds?
Parce que c'est rigolo, parce que... Alors, je vais vous expliquer une chose. Si vous voulez montrer à la télé quelque chose d'intime d'une fille qui se prépare dans sa salle de bain, est-ce qu'elle peut s'épiler les jambes? C'est pas très joli. Est-ce qu'elle peut se faire les aisselles? C'est pas très joli. Est-ce qu'elle peut...
Montrer ses seins à 18h sur TF1, hors de question.
Donc elle peut se mettre du vernis ongles sur les pieds, on a l'impression de participer à son intimité.
Merci beaucoup.
C'est aussi bête que ça.
Jean-Luc Cazolet. Longue vie au mystère de l'amour.
Ah, mais oui. Voilà. Mais je vous assure, c'est la même chose depuis le début. J'ai un seul univers que je fais
dimanche,
tourner.
Dimanche, Cannes Série, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Masterclass de Jean-Luc Azoulay. À part ça, Cannes Série, il y a une pluie de stars internationales. Mais vous voyez, Jean-Luc, notre Jean-Luc Azoulay national, il vaut le détour. Mille merci à vous.
Et moi, je suis ravi parce qu'il y aura Diane Harry qui est quand même une de mes idoles.
Voilà, chapeau melon et bottes de cuir. Ah.